Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. I love this. New York was his town, and it always would be.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, bienvenue dans le goût du monde, dans la fièvre des rues new-yorkaises, les bruits des sirènes. Voyez le soleil qui peine à se faire une place, à percer là tout à haut entre les sommets des immeubles et en bas. Sur la 2e avenue, Lower East Side, Lexington Avenue, East Houston, Manhattan, une porte, un havre, un refuge. Vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez dans le nez ? Ce parfum de pain toasté, d'épices, la douceur des oignons, de coriandre et du paprika. C'est doux, sucré, légèrement chaud. Vous tournez la tête et là, c'est la cannelle et la crème. On est bien, non ? Asseyez-vous donc, Annabelle. Vous préférez quoi, la table ou le comptoir ?
Le comptoir.
Ah, parfait. Annabelle Chaque-Messe, bonjour.
Bonjour, Clémence.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes critique gastronomique, autrice. Alors, la cuisine italienne, les petits plats mijotés, la street food et j'en passe. Mais votre dernier livre, il a une place particulière, ce dernier livre. Il est une question de mémoire.
Tout à fait.
De transmission, d'origine. Je pense aussi que votre grand-père devait se situer juste là au-dessus de votre épaule quand vous l'avez écrit. C'est une idée comme ça. Est-ce que vous pourriez me dire justement d'où est venu ce livre ?
Ce livre, il est venu avec une forme de maturité. C'est-à-dire que j'en avais fait plusieurs avant, je savais que j'avais été où j'avais envie d'aller. Et je me suis aventurée sur un coin un peu plus psychanalytique en me disant « Ok, on va passer aux choses sérieuses. » Qu'est-ce que j'ai envie de laisser après moi? Et j'ai surtout envie qu'on n'oublie pas ces plats et qu'on n'oublie jamais surtout d'où ils viennent. J'ai pas de problème à manger un bagel et c'est super que ce soit à Montréal ou à New York
ou à Paris.
Ou à Paris. Mais le bagel, je veux qu'on sache d'où il vient. Voilà.
D'ailleurs, c'était un petit peu une révélation choc. Un autre pain, c'était pas un bagel. C'était en Pologne. Et là, vous avez demandé justement l'origine d'un pain. Alors, vous allez le prononcer pour moi?
C'était le
Chabos Chala.
Alors ça, c'était une histoire incroyable.
Ben, racontez-moi.
Premier livre que j'ai écrit sur la cuisine juive en 2015. Je suis en Pologne et je vois dans une boulangerie un pain qui est dénommé Chabos Chala. Et je demande à la dame, et c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai eu envie de faire ce livre, je demande à la dame si elle a d'autres viennoiseries ou pains juifs. Et elle me dit, mais la Chabos Chala, ce n'est pas du tout juif. Non, Shabbat, Chabos, non, pas du tout. Ok, pas de problème. Mais je me suis rendu compte que vraiment, il était important d'ancrer les choses.
De rappeler. D'où ils viennent.
Tout à fait.
Et alors voilà New York. Parce que c'est cuisine juive à New York.
C'est le seul lieu, New York, aujourd'hui, où ces plats existent encore, de façon si brute et si sans filtre en réalité. Il n'y a plus de Bialy, par exemple, qui est un pain qui est originaire de Bialystok en Pologne. Ben, dans la ville de Bialystok en Pologne, il n'y en a plus. Les bagels, c'est pareil, il n'y en a plus tant que ça. J'ai été en Pologne il n'y a pas très très longtemps. C'est plus les mêmes bagels et c'est plus... Voilà. Donc en fait, New York est la seule ville au monde où ces plats sont affirmés comme juifs, où ils sont encore là en réalité, où on peut encore les manger.
Comme si dans leur pays d'origine, en fait, ils étaient oubliés et à New York, ils étaient conservés.
Tout à fait. C'est un conservatoire historique culinaire, New York.
Et c'est toutes les questions que vous posez tout au long de ce livre, donc cuisine juive à New York. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire nous éclaire généralement quand on se pose des questions dans ce style comment, pourquoi. L'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire de la création New York ? Plutôt la question, c'est comment cette ville nouvelle, créée de toutes parts, qui n'existait pas il y a 4 siècles, s'est créé et a été une page blanche pour toutes ces cuisines.
Comment c'est la venue de tous ces immigrés, en fait, qui a fait que cette page s'est écrite. Ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que chacun a pu garder ses singularités tout en évoluant de façon totalement novatrice et effectivement page blanche. Donc en fait, ils sont arrivés à un endroit... Déjà, j'ai réalisé une chose qui pour moi a été quand même un peu compliquée à gérer intellectuellement, mais les Ashkénazes n'étaient pas les premiers à arriver, c'était les Séfarades. Donc bon, ok, Je veux bien l'admettre.
Un premier indisposé là, donc vous êtes plutôt Ashkenaz, donc Gefilte Fish, on est d'accord?
Je suis Ashkenaz Matzobol Soup. Ashkenaz Gefilte Fish, c'est un autre problème.
Matzobol, nous avons la chance de pouvoir en déguster pendant cette émission. Donc nous allons y arriver. Mais d'abord, donc les premiers immigrés juifs arrivés
sont
donc, sur cette terre sont les Séfarades, qui eux avaient fui l'Espagne et le Portugal, étaient arrivés au Brésil.
Exact. Ils sont remontés. En fait, c'est eux qui ont créé les premières communautés. Quand on parle de communautés, on parle de 5, 10, 15, 20, 25. Mais ça a commencé avec une cinquantaine de personnes max, en vérité. Et eux, en plus d'autres immigrés, il y avait des immigrés hollandais, beaucoup, ont créé ces communautés et ont créé ces singularités culinaires. Il y a une autre spécialité qui a été, parce que mixité de culture dans des quartiers particuliers, chacun mangeait la nourriture des autres, mais vous allez retrouver dans ce livre des spécialités qui sont particulièrement pas juifs, mais qui sont devenues avec cette mixité de, comme le coleslaw par exemple. Le coleslaw, c'est une spécialité qui est née de l'arrivée des Hollandais. Et qui faisait pousser des choux sur les bords de l'Hudson. Et en fait, ces choux étaient saumurés et tout ça. Et donc, du coup, comme ils habitaient tous le même quartier qui est effectivement le Lower East Side, eh ben, les Juifs ont commencé à manger du chou et le coleslaw est arrivé ensuite dans tous les délicatessens new-yorkais.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on se rend compte qu'à l'arrivée donc, des premières vagues de migration, séfarades, puis les Ashkenazes, puis évidemment tous les ressortissants d'Europe de l'Est. Et tout le monde s'est installé dans le même quartier. En tout cas dans le même coin, dans le sud de Manhattan. Ils avaient les mêmes paliers, les mêmes blocs, les mêmes immeubles, ils étaient des voisins.
C'est ça.
Et donc ça faisait une espèce de grande marmite de mélange.
C'est ça. À New York, il y a un musée qui s'appelle le Tenement Museum, qui parle de ces mixités de culture et qui parle de ces immeubles, donc les tenements, où ces gens vivaient tous ensemble en fait, en vérité. Et c'est très intéressant parce qu'on comprend de fait la singularité de la ville aujourd'hui.
Alors, on avait donc toute cette diaspora juive. Puis, il y avait les Italiens.
Ah ouais, les Italiens.
Les Irlandais.
Très grosse communauté irlandaise, italienne, chinoise aussi.
Chinoise aussi. D'ailleurs, on apprend dans votre livre quelque chose de très intéressant aussi. Qu'est-ce qui se passe les 25 décembre à New York, Annabelle Chaconnès?
Les deux principales communautés à ne pas fêter Noël, qui sont les communautés asiatiques, donc chinoises et juives, se retrouvent, c'est-à-dire que tous les restaurants chinois sont ouverts et la plupart des clients des restaurants chinois ce jour-là sont des juifs. Et c'est devenu une sorte de coutume, les 25 décembre, vous ne trouvez que des juifs dans les restaurants chinois et qui mangent de la nourriture chinoise. Alors évidemment, il n'y a pas de porc, tout est cachérisé pour le jour, mais c'est hyper intéressant de voir que c'est devenu une vraie coutume au fil du temps.
Une vraie rencontre.
Tout à fait.
There's nothing more New York than a pastrami on rye. And no one does it better than Katz's.
Le goût du monde sur RFI.
Je vous propose d'aller un petit peu dans la rue, là.
Allons-y.
Allons-y. Je vois juste devant moi, tiens, on dirait un petit Katz, un délicatessen. J'aimerais que vous m'expliquiez. Délicatessen, ça vient d'où ce mot?
De délicatesse.
Ah.
Ce qui est tout à fait.
Français alors?
Alors, européen. Européen de délicatesse, en fait, c'est ça. C'était à l'époque, c'est originaire pareil de Hollande.
Dans notre immeuble, on avait des Hollandais, il y avait aussi des Français.
Oui, c'est ça. En fait, les délicatessen, c'est l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui comme street food qu'on peut retrouver partout, mais c'était aussi une version une façon de voir les choses de viande qu'on trouvait en Allemagne et qu'on trouvait en Autriche et qu'on trouvait en Hollande. C'est-à-dire qu'ils vendaient des charcuteries, mais on s'asseyait pas dans les délicatessens en Allemagne, c'était comme des charcuteries, en fait, on achetait, et pareil comme les salumerias italiennes.
C'était des boutiques, on passait,
des
on
boutiques
achetait.
Qu'on achetait et hop. Maintenant, on est arrivé ensuite le fait qu'elles soient cachérisées. Au début du XXe siècle, elles sont toutes cachérisées plus ou moins avec l'importance de la communauté juive de ce quartier. Et ensuite, elles ont évolué, où on a pu s'asseoir, on a pu manger et c'est devenu les restaurants que ce sont aujourd'hui.
Les mythiques restaurants.
Oui.
Moi, je ne sais pas si vous l'avez dans l'oreille, là, le petit pain, le rye bread qui croustille. Là.
Ah, j'adore ça. Mais bon, vous savez, la plus belle rencontre que j'ai faite à New York était dans un délicatessen incroyable. Quand j'ai fait ce livre de la cuisine juive à New York, je suis tombée folle amoureuse d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Cohen. Steve Cohen, et qui est le gérant du Second Avenue Deli. Ce monsieur est d'une gentillesse et incroyablement, alors ouais, je ne sais pas si vous y croyez ou pas Clémence, mais il est la photocopie de mon grand-père et de la tête qu'avait mon grand-père. Et il s'est passé un truc incroyable. Mon grand-père me servait un plat que vous allez trouver dans le livre, qui s'appelle le matzeh braai. Et dans ma tête, ce truc n'existait pas. C'est-à-dire que je ne savais pas que c'était une vraie recette. Ce sont des galettes de matzah, comme c'est
pesé. De pain azim, donc.
De pain azim. Et dans ma tête, à aucun moment, je n'imaginais que c'était une recette et que ce truc avait un nom autre que la flemme de mon grand-père, en fait. C'était le plat que j'aurais pu appeler la flemme de mon grand-père. Et j'arrive dans ce, je suis en plein dans le shooting de Steve, j'arrive dans ce restaurant, Steve, adorable, me sort l'intégralité de sa carte en me disant, tu fais ce que tu veux, tout le machin. Et ce plat arrive. Et mon cerveau fait 29 tours, Clémence. Ce que je me dis, ça ressemble quand même beaucoup.
Au plat de la flemme de mon grand-père.
Au plat de la flemme de mon grand-père. Et il s'est passé un truc. Je goûte, je prends une bouchée et c'était ça. Que je n'avais pas mangé depuis, 35 ans. Et petit coup d'angoisse. Et je me suis jurée de ne plus jamais remanger ce plat. Parce que, en fait, c'est émotionnellement beaucoup trop compliqué à gérer d'avoir cette bouffée
d'émotion.
Et je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est fini. Regarde, goûte-le bien, c'est bien, super. Allez, bisous, salut.
Plus jamais la flemme de mon grand-père.
Plus jamais.
Plus jamais. Musique, je crois. Sarah Algan sur RFI, l'un des titres de l'album Ido Dawar. Sur la playlist de RFI, vous nous rejoignez, bienvenue, c'est le goût du monde. Aux États-Unis, dans les marmites de la cuisine juive à New York, le nez dans les bacs fumants de bouillon épicé, pastrami, les bialy, les petits pains aux oignons et graines de pavot, les lamelles de fromage fondant sur ce corn de bif glissé dans un rack. Je pense que j'ai été très inspirée dans la préparation de cette émission parce que tout est totalement gourmand. Alors je vous ai dit, Merci pour ce plat partagé de votre grand-père.
Mais merci à vous.
Parce que c'est rare en fait d'avoir des moments comme ça où on a l'impression d'être dans vos pas.
Ah, c'est
et,
gentil.
Et dans vos yeux à se dire oui, ça doit être juste un peu incroyable d'avoir la gorge serrée quand on goûte. Je vous emmène quand même à Paris.
Allez.
Parce qu'il y a des délits à Paris. On pousse la porte de Janet by Homer.
J'adore.
On est rue Victor Hugo. Et là, c'est Pastrami Party, Ruben Follies avec Moïse Fez.
Le Ruben est une recette de sandwich au pastrami. Le pastrami, en vrai, c'est une viande qui est saumurée avec des épices fumées puis bouillies. Pour faire un Ruben traditionnel, il faut du pain de seigle. Nous, on fait une brioche de seigle maison. Il faut une sauce russe, des pickles, du vinaigre de pickles, de la mayonnaise. Après, chacun a sa recette de Russian sauce. Mais j'essaye de la faire vraiment de façon traditionnelle. Il faut du Swiss cheese, donc de l'emmental suisse, en général de la choucroute et du pastrami.
On m'a dit que le pastrami, vous y prêtez vraiment grande attention.
Énormément.
Et alors racontez-moi un petit peu justement comment vous êtes, est-ce que vous avez retrouvé les recettes? Comment ça s'est passé cette...
J'ai fait 2 ans d'essais, 2 ans de ratés, 2 ans de mise en saumure, 2 ans de fumage, 2 ans de cuisson, 2 ans de parfaite texture, où après ben, la cuisson peut être réussie, mais le maintien à température va surcuire la viande. Donc elle va être bonne quand on la fait, mais elle va pas être bonne au moment où on la sert. Ça a pris énormément de temps pour essayer d'arriver jusqu'au moment où ben, on peut le faire en livraison, on peut le mettre dans l'assiette, on peut le garder jusqu'au soir, et les gens vont retrouver le même plaisir à le manger que quand on vient de le faire.
Est-ce que vous diriez que le pastrami, c'est un marqueur du goût de la cuisine juive à New York?
À New York, il y a 2 sortes de cuisines qui sont prédominantes. C'est les délits italiens, parce que vous allez retrouver les subs italiens. Donc c'est un sandwich qui est quand même traditionnel américain new-yorkais. Et on va voir les délits juifs. Pour moi, pastrami, c'est New York.
En termes de goût, tout plein d'immigrés qui sont arrivés, qui ont apporté dans leur valise
leur culture, mais...
Justement, ce pastrami fait partie intégrante de cette culture.
Alors, moi, vous voulez que je vous dise, le pastrami, lorsqu'ils l'ont amené, était quelque chose... Mais le côté américain l'a rendu. Parce que qu'on aille en Pologne, en Allemagne, là où il y a eu les origines du pastrami, vous ne trouverez jamais un pastrami comme vous trouvez aux États-Unis. C'est cette américanisation, on va dire, de l'immigration et des traditions juives d'Europe de l'Est qui a rendu ce produit. C'est pas uniquement les juifs d'Europe de l'Est qui ont fait ce produit. Moi, je pense que c'est le côté américanisé du produit qui l'a rendu aujourd'hui célèbre et le pastrami qui est aujourd'hui.
L'implantation d'une culture dans un pays avec des ingrédients peut-être différents et du coup le mélange a fait que...
Complètement. Je suis persuadé que c'est ça. Après, regardez, en France, on a une culture du pastrami. Le pastrami, c'est de la charcuterie froide, un peu sèche, très fine. À New York, eh ben, c'est épais, c'est chaud, c'est coupé minute au couteau, c'est fondant, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'en France, on le fait comme en Pologne. Mais personne ne le fait comme aux États-Unis. Donc je vais vous montrer, on a un steamer, j'ai vraiment essayé de le faire comme là-bas. Là-bas, il y a des grosses maintiens à chaud à vapeur et on le coupe minute. Nous, après, on le trempe dans un bouillon juste avant de le mettre dans le sandwich pour que ça soit bien juteux. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de le faire dans la tradition la plus pure.
Comme si là, on ferme les yeux, on est transporté à New
York. C'est le but.
Oh, je vous suis alors.
Fais une tranche, s'il te plaît, deux belles tranches. Il y a beaucoup de.
Je vous fais un sandwich?
Je veux bien.
Alors, vous voulez un Ruben ou vous voulez notre Janet à nous? Janet, c'est moutarde maison, oignon confit, pickle de cornichon. Et un Ruben, c'est choucroute, comme je vous ai dit, choucroute.
Votre Janet?
Voilà. Maintenant, il faut manger tant que c'est chaud.
Ah, ce Janet à nous, terriblement délicieux. Ce classique Janet, incroyable, Annabelle Chakras.
Ah, j'adore, moi je suis fan de Janet.
Ouais, moi aussi. Et vous disiez, en écoutant Moïse parler, vous disiez exactement, c'est exactement
oui, c'est ça.
Ça.
En fait, New York a donné du peps à cette cuisine de gens tristes. C'est des gens qui sont arrivés parce que ils vivaient des trucs effroyables et ils ont eu un second souffle dans cette ville et leur cuisine s'en est ressentie. Mmh. Et c'était fou, quoi. Et cette cuisine est l'inverse de toutes les angoisses. En fait, la cuisine de cette ville, la cuisine juive de cette ville est l'inverse de toutes ces angoisses.
C'est comme une espèce de libération.
Totalement.
Vous dites qu'elle est affranchie, cette cuisine, qu'il y a eu une révolution, comme dans les
Totalement.
Années 68, où tout à coup, elle s'est dit, allez hop, on va juste s'affranchir de toute règle, on va se régaler.
En fait, elle s'est affranchie avec le temps, parce que au fur et à mesure du temps, elle a pu être faite par les immigrés natifs, enfin natifs, on se comprend, hein. Mais elle a été faite par les générations qui ont suivi et qui n'avaient plus cette pesanteur en eux. Donc en fait, qui ont mis des petites touches de kiff. Et en fait, c'est devenu un truc... Enfin, moi, je voyais le gefilte fish, par exemple.
Alors, le gefilte fish, disons-le, c'est la carpe farcie passée au hachoir, donc au moulin,
ouais.
Dont on se régale ou pas à Pâques.
Exactement. Alors, potentiellement, vous ne trouverez pas un enfant ashkénaze dans son enfance qui a dit un jour « Oh, j'adore ça, fais-moi de la carpe farcie, maman, s'il te plaît. » Ça n'existe pas. Quand le plat arrive sur table, avec la gelée tremblotante de poisson et les boulettes, on se dit « Non, non, s'il te plaît, ne me fais pas manger ça. »
Et il a du succès chez Ross and Daughters, ce plat.
Mais oui. Mais...
Alors, Ross and Daughters, appetizer, encore un nom. Encore quelque chose qui veut dire quelque chose.
Oui.
C'est un emblème de ces cuisines à New York.
Alors, vous avez dans les cuisines juives de New York, enfin les cuisines juives parce qu'il y a les délicatessens et les appetizing shops, mm-hmm. qui sont le reflet, pour le coup, de la religion. C'est-à-dire que les délicatessens, vous mangez de la viande, et les appetizing shops, c'était plus les poissons,
les saumons,
les fumaisons et le lait. Donc, qui est de ne pas mélanger, la loi juive, de ne pas mélanger le lait et la viande quand on mange. Et c'était ça à New York avec ces deux styles de boutiques. Donc, les appetizing shops et les délicatessens.
Alors là, juste en un mot, bagels, saumon.
Bagels and lox.
Bagels and lox.
Ouais.
Mythique.
Mythique. Et ça ne se mange, je vous le dis comme ça, c'est clair, si vous allez à New York un jour, uniquement chez Ross and Daughters, parce que l'ambiance même du restaurant, ils ont ouvert un café, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Les serveurs sont en veste blanche, le restaurant est tout sent l'ashkénazerie pure.
Et c'est Nikki, de la quatrième génération, qui signe la préface de votre livre.
Oui.
Vous avez évoqué, mais d'un juste mot, matzo balls, tout à l'heure.
Ouais.
Alors je vous propose d'écouter deux autrices du premier livre de cuisine américaine publiée en France.
Ok.
On pose la chose, on est dans les années 90. Constance Borde et Sheila Malovany Chevalier, toutes deux professeurs de littérature américaine
okay.
et de civilisation, mettent la dernière touche à leur livre. Et là, tout à coup, c'est le soir, elles réalisent, il manque quelque chose de fondamental.
Des batteballs. Une des nombreuses choses, on se couche tard et on se lève tard. Donc, une nuit, c'était vers 11h du soir dans mes souvenirs,
Peut-être 2 heures du matin,
elle m'appelle, elle dit « Sheila, il n'y a pas de recette pour les matzo balls ». Et j'ai dit « Connie, c'est trop juif, on ne va pas mettre des matzo balls ». Elle a dit « Si tu ne le mets pas, c'est moi qui vais les faire ». J'ai dit « Oh non, jamais de la vie ». Donc, à 2 heures du matin, j'ai commencé à faire des matzo balls pour la soupe. De sa grand-mère italienne, la soupe de chicken broth.
Il y a un mélange. Il y a un mélange de style et de gens dans la cuisine américaine, mais c'est ça qui est bon.
Quand vous entendez ça...
Ah, je suis pas du tout étonnée. Je suis pas du tout étonnée parce qu'en réalité, c'est... Alors, oui, c'est très juif, on peut pas le nier, mais c'est très new-yorkais. Parce qu'au final, à New York, n'importe où vous allez aller, enfin, n'importe quelle délicatessène, vous pourrez manger de la matzo ball. Alors qu'ici, personne ne sait ce que c'est.
Qui sont des boulettes de pain azyme dans un bouillon de poulet.
Exactement.
Le chicken broth qui permet de retrouver un petit peu la forme quand on est...
Ah mais moi, c'est le truc, encore à date, à 46 ans, que je mange tout le temps. Et on parle de boulettes de farine quand même. Enfin, c'est le truc le plus fat de la terre. Mais j'ai un truc que je peux vous dire à vous parce que je vous aime beaucoup, Clément.
Pas trop fort.
En fait, j'ai frite un bouillon cube dans la mixture de farine pour que ce soit assaisonné.
D'accord. Moi, j'ai entendu quelque chose aussi. On m'a parlé de schmaltz.
Ah oui. Donc, non, schmaltz. Mais ça, c'est plus difficile à trouver en France. C'est de la graisse de poulet qu'on obtient en faisant cuire de la peau de poulet et du gras de poulet, mm-hmm. qu'on retire ensuite parce qu'ils auront vraiment caramélisé ce qui s'appelle les gribnitz mm-hmm. aux États-Unis, qui est très très bon, ça croustille, c'est délicieux. Et ensuite, toute la graisse est conservée. Et on l'utilise comme de la graisse d'oie, en fait.
Et là, en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, on est totalement à New York.
Ben alors, pour les juifs ashkénazes, globalement, on est chez nous. C'est-à-dire que c'est le truc qu'on a mangé toute notre vie. Mais quand on est à New York seul, qu'on a travaillé pendant des semaines, qu'on est à bout du roule et qu'on se fait une matzo balls, on est chez nous.
À la maison.
Voilà.
On n'a presque pas parlé, pourtant l'émission se termine bientôt, des babkas. de ces, ouais, de ces douceurs, parce que là, il y a la cannelle, il y a la crème,
Les babkas, c'est devenu très à la mode en France. Et ça ne l'était pas il y a quelques années. J'ai des amis qui ont monté une adresse qui s'appelle Babkazana, où vous trouverez, pour moi, les meilleurs de Paris. Et c'est devenu très à la mode. Mais c'est une vraie histoire, la babka. C'est-à-dire que la babka, New York lui a donné sa forme longue. La babka, avant, c'était vraiment comme des rosaces, quoi. C'est tressé, mais en couronne.
D'accord.
Là, c'est tressé, mais en longueur. Comme un cake, en réalité. Et c'est sans New York, la transformation esthétique s'est faite là-bas.
On a aussi les layer cakes.
Oui.
Les black and white cookies.
Oui, tout
ça
à
aussi.
Fait.
Et les cheesecakes.
Les cheesecakes, parce que c'est une vraie récurrente polonaise. Enfin, moi, je parle de Pologne parce que c'est là où je les ai vus la première fois, en Europe de l'Est. Mais c'est une récurrente d'Europe de l'Est, le cheesecake. C'est quand même vraiment...
C'est la vatrouchka.
Oui, c'est ça.
C'est gâteau de fromage blanc, le cernic.
Et au final, c'est pareil, c'est un gâteau d'immigration.
Comment, ça c'est une question que vous posez dans votre livre, et que je vous pose vous, comment est-ce que votre génération agit pour que justement, on n'oublie pas les racines de ces cuisines?
Alors je sais...
Si vous venez déjà dans le goût du monde.
Oui, c'est ça, et je pense qu'en tant qu'adulte, bien qu'on se considère toujours des enfants, mais en tant qu'adultes, c'est à nous de prendre la conscience des choses, en fait. C'est la prise de conscience qui vous donne envie de transmettre et de faire en sorte qu'on n'oublie pas. Je pense que c'est valable pour la cuisine juive, mais pour plein d'autres choses, en réalité. N'oubliez jamais qu'un micro-mot va pouvoir avoir une incidence sur des années, des dizaines, des centaines d'années peut-être.
Toutes les cuisines, toutes les cultures, la musique, le fait d'exister.
Exactement.
Et la diversité, qu'elle puisse exister.
Totalement.
Aussi. Totalement. Petite question, un ingrédient, un ustensile? Parce que j'aimerais bien savoir en fait, parce que dans ces gestes répétés et transmis depuis des générations, il y a le savoir-faire de la moulinette du gefilte fish pour mouliner les balles, de matzabos. C'est quoi?
Là, les deux vrais ustensiles que je vous donnerai, c'est effroyable comme ustensile, mais c'est malheureusement la vérité de cette cuisine juive, c'est vos yeux et vos mains. Parce qu'en fait, vos mains vont toucher des textures que vos grand-mères ou tantes vous auront fait toucher. Et vous n'aurez cette perception qu'avec vos mains et vos yeux. En réalité, il y a eu des prises de tête énormes sur les... Ah oui, il faut mettre un verre. Et le jour où j'arrive, le verre microscopique...
Il n'y a plus de recette.
Donc en fait, on est sur un truc où je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et en fait, voilà. Les yeux et les mains sont les ustensiles les plus importants. Et les oreilles, bien sûr, parce que vous écoutez. Mais vous êtes votre ustensile.
Et ça, ça vaut pour toutes les cuisines aussi. Merci beaucoup, Annabelle.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Merci pour ces histoires, votre histoire.
Merci.
Un clin d'œil à votre maman, qui aurait pu préparer un petit foie.
Je vais être très honnête avec vous. On va se dire les choses très honnêtement. Je ne lui ai pas dit que je venais parce que je savais que j'aurais le foie haché à transporter pendant 1h30 de métro. Et vu la température qu'il fait dehors, je me suis évité ça, si vous me permettez.
C'est très bien. Comme ça, ça rend hommage au foie haché de votre maman. La cuisine juive à New York est publiée chez Hachette Cuisine. On vous suit sur les réseaux sociaux, vos aventures sur Instagram. Les liens sont sur la page de l'émission avec une recette ou deux. Un délice de New York ou deux, nous
allez.
Verrons, hein, on va voir. Un bagel peut-être?
Un bagel,
c'est pas mal. Un bagel.
Ouais, c'est pas mal. Mais la matzo ball soup, c'est bien.
Ah oui, c'est bien aussi. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. À partager, bien sûr, commenter, déguster ensemble la nuit, le matin, un peu quand vous voulez, grâce au podcast Pure Radio ou votre plateforme préférée. Bref, tout ça pour vous, quand vous voulez. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Même table, même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.